Chers amis, bonsoir. Nous allons commencer une série sur l'Évangile selon Matthieu, et en particulier sur le chapitre 24 de Matthieu, que vous savez être le chapitre dans lequel Jésus va donner lui-même les prophéties concernant Jérusalem et concernant la fin des temps. L'intérêt de ces prophéties-là, c'est que on ne va pas se porter sur les écrits d'un prophète, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament seulement, mais on va commencer avec les prophéties que Jésus lui-même a données, les prophéties que le Christ lui-même a apportées. Il nous faudrait une longue série de conférences pour pouvoir explorer toutes les ressources de Matthieu chapitre 24. On va se limiter à 6 qui vont nous renvoyer dans tous les coins de la Bible, parce que Jésus, dans ce chapitre, va faire allusion à des pages passionnantes de l'histoire de son peuple, mais on va aussi faire référence à un certain nombre d'éléments qui se trouvent ailleurs dans les Écritures et principalement dans l'Ancien Testament. Et vous allez vous rendre compte que les pages de l'Ancien Testament résonnent extrêmement fort dans le Nouveau, que nous connaissons mieux que l'Ancien en général. Pour découvrir ce que l'avenir nous réserve, nous allons avoir besoin de savoir ce que l'histoire a apporté à l'humanité. En découvrant l'histoire, nous allons nous rendre compte que malheureusement, l'histoire se répète. C'est-à-dire que les hommes sont toujours les mêmes, le décor change, mais finalement, nous sommes très semblables à ceux qui ont vécu avant nous et nous commettons les mêmes erreurs, les mêmes fautes, parfois les mêmes bonnes choses aussi. Et ainsi, nous allons devoir explorer le passé. Et vous allez voir que le passé est riche de toutes sortes de choses qui nous rappellent énormément le présent. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, Jésus parle de ce qui concerne son temps et de ce qui concerne la fin des temps. Pour commencer, et en guise d'introduction, j'aimerais donner un théorème de départ. Bien entendu, parler de l'Évangile de Matthieu, c'est dire que je crois dans l'Évangile. Et j'aimerais tout de suite vous dire que je crois entièrement dans ce livre qui est la Bible, comme étant la parole de Dieu de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On pourrait aussi étudier l'authenticité, la valeur des Écritures, ce n'est pas mon propos. Je prends pour acquis que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est inspirée et que Dieu parle aux hommes par ce moyen-là. Je pars de ce principe-là. Et je vous invite à me suivre sur cette ligne-là, parce que au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu a parlé, que ce soit dans le passé lointain ou dans le passé proche, la parole de Dieu s'accomplit, qu'on le veuille ou non. Et par conséquent, puisque la parole de Dieu s'est accomplie dans le passé, j'ai aucun doute qu'elle s'accomplira tout aussi fidèlement dans l'avenir. Alors, je vous propose de partir dans cette étude de Matthieu chapitre 24, mais nous allons aujourd'hui essayer de camper le contexte de ce chapitre. Nous lisons Matthieu 24 et souvent lorsque nous lisons ce chapitre, nous le déconnectons de son environnement. Ce soir, ce que j'aimerais, c'est reprendre l'environnement de ce chapitre et vous montrer à quel point, ne serait-ce que les premiers versets, sont extrêmement lourds de signification par rapport au temps de Jésus et par rapport à notre temps. Alors nous allons faire de l'histoire. J'ai sélectionné dans l'histoire ce qui est significatif et qui nous intéresse par rapport à ce chapitre, parce que l'histoire c'est énorme, mais il y a des pages de l'histoire extrêmement parlantes et vous allez vous rendre compte qu'elles nous parlent encore très fort aujourd'hui. Je vais en arrière et je reviens au départ du peuple hébreu, du peuple d'Israël, au départ dans le sens où il commence en tant que peuple véritablement au moment de la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez que Moïse, envoyé par Dieu, va aller chercher le peuple qui est esclave en Égypte pour prendre quelques raccourcis. Et c'est en 1445 avant Jésus que Moïse, sous la direction de Moïse, le peuple va quitter l'Égypte dans ce qu'on appelle généralement l'exode du peuple hébreu. Vous vous souvenez que au moment de partir de l'Égypte, le peuple va être invité à célébrer pour la première fois la fête de Pâques. Cette fête de Pâques est associée à la dixième plaie qui va permettre au peuple de quitter l'Égypte et dans laquelle tous les premiers-nés vont périr, sauf ceux qui vont être dans les maisons marquées du sang de l'agneau pascal. Donc ce départ de l'Égypte va être déjà placé sous le signe du sang du sacrifice de l'agneau pascal. Alors nous avons, nous, à notre époque, une énorme perspective avec la fête de Pâques. Et nous comprenons avec le temps à quoi correspond cette fête de Pâques en relation avec le sacrifice du Christ, bien entendu. C'était peut-être moins clair pour eux que ça l'est pour nous, puisqu'ils vivaient à l'autre bout de l'histoire. Mais voilà comment les choses commencent. Dieu appelle son peuple à sortir d'Égypte, à sortir de l'esclavage, et les emmène dans le désert en réalité. Arrivé après quelques semaines au pied du mont Sinaï, Dieu parle à son peuple et dit ceci: « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Autrement dit, en appelant son peuple hors d'Égypte, Dieu veut faire une alliance avec ce peuple, un pacte particulier. Raison pour laquelle il l'amène au pied du mont Sinaï, où quelque chose de particulier va se passer. Le peuple va répondre. Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: « Nous ferons ce que l'Éternel a dit. » Dans cet établissement du pacte, il y a un échange entre Dieu et le peuple par l'intermédiaire de Moïse. Moïse va être celui qui va monter sur la montagne, qui va parler avec Dieu, qui va redescendre vers le peuple, négocier avec le peuple, établir un contact de plus en plus étroit pour que cette alliance puisse se faire. Bien entendu, cette alliance va s'exprimer par le texte de l'alliance, le texte du contrat, à savoir les 10 commandements que Dieu va donner à ce peuple, que Moïse va aller chercher des mains de Dieu. Le texte nous dit que Dieu lui-même en a écrit le texte de son doigt. C'est dire à quel point ce contrat est cher à Dieu, et Dieu voudrait qu'il soit aussi cher à ceux qui le reçoivent. Un contrat d'alliance entre Dieu et un peuple, dans lequel sa loi va jouer un rôle très important, c'est le texte de ce contrat. Maintenant, à cause de cette alliance qui est établie entre Dieu et ce peuple, Dieu va proposer maintenant de faire un pas de plus et de construire un sanctuaire, de construire un temple. Alors, les temples anciens de l'Antiquité sont des monuments extraordinaires. Ça va le devenir sous Salomon. Mais en attendant, ils sont dans le désert. On va construire un temple démontable. C'est ce qu'on appelle le sanctuaire de Moïse, le sanctuaire du désert, construit avec les matériaux qu'ils ont pris d'Égypte, mais qui est finalement une tente transportable. Le vocabulaire qui est employé dans le texte en rapport avec la construction de ce temple est particulièrement significatif. Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Le sanctuaire a donc pour objectif de représenter la présence de Dieu au milieu de ce peuple. Et il l'était effectivement géographiquement avec les tentes installées tout autour, bien organisées par tribus. Il y avait 12 tribus qui s'organisaient autour du temple. Dieu propose de venir habiter au milieu d'eux. Maintenant, pour dresser des perspectives à long terme, vous vous souvenez que lorsque l'ange va annoncer à Marie qu'elle est enceinte et qu'elle va enfanter un enfant particulier, l'ange va lui donner son nom. Deux noms en fait, Jésus et puis Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le sens de ce nom-là et que l'on retrouve dans l'entreprise de la construction du sanctuaire. Maintenant, il va se passer quelque chose. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage, il a fait construire ce sanctuaire avec les ouvriers qui étaient là. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Ils l'ont construit, ils l'ont monté selon les indications de Dieu, et lorsque le travail est fait, Dieu vient d'une façon visible pour eux avec la nuée qui vient pendant le jour et la colonne de feu qui vient pendant la nuit. C'est les indications que le texte nous donne. Dieu va donc manifester sa présence d'une façon visible à ce peuple en entier. Toute la journée, ils pouvaient regarder vers le sanctuaire et voir cette colonne de nuée qui était au-dessus du lieu très saint du sanctuaire. La manifestation de la présence de Dieu. Un peu plus tard, bien entendu, lorsque le peuple sera installé dans ce qui est la Canaan, la terre promise, la Palestine géographique, non pas politique, bien entendu, la Palestine géographique, le peuple va s'installer et finalement, le troisième roi d'Israël, Salomon, va construire un temple à la mesure de ce qu'ils veulent faire connaître de Dieu. On va laisser la tente démontable et on va construire un temple qui va être une des sept merveilles du monde. Ce temple, évidemment, dépasse ce que nous pouvons imaginer. Les auteurs anciens font allusion à ça, mais d'une façon très indirecte, comme étant quelque chose qui dépasse l'imagination. On en a aujourd'hui reproduit des maquettes qui sont les maquettes du deuxième temple, le premier ayant disparu à l'époque de Nebuchadnezzar. Il semble que le temple de Salomon ait vraiment été quelque chose que l'on ne peut imaginer tant par la beauté que par la grandeur, que par la manière dont il a été fait. Vous vous souvenez probablement, le texte dit qu'on n'a pas entendu dans Jérusalem le bruit des marteaux ni des ciseaux. Parce que tout a été préparé avant, une sorte de kit si vous voulez, et on a construit le temple dans le plus grand silence. Extraordinaire. Donc on va construire un temple. Et dans ce temple de Salomon, que va-t-il se passer ? On va en faire l'inauguration. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Vous remarquez que ce texte répète pratiquement les mêmes mots, le même langage, que ce qu'on avait avant par rapport au moment où on a inauguré le sanctuaire dans le désert. Cette fois-ci, on inaugure le temple de Salomon et on a la même chose. Une manifestation particulière, la nuée qui vient, la présence de Dieu dans le temple. On a dans le texte biblique une extrêmement belle prière de la part de Salomon, la prière de consécration du temple, où il appelle la présence de Dieu et où il présente à Dieu ce peuple qui est faible, mais qui veut être au service de Dieu. Une très belle prière que vous pouvez lire dans 1 Roi chapitre 8 d'ailleurs, et 7. Nous avons donc deux choses ici qui se ressemblent. Lorsque le sanctuaire du désert est inauguré, la présence de Dieu se manifeste. Lorsque le temple de Salomon est inauguré, la présence de Dieu se manifeste de la même manière et vient habiter au milieu de ce peuple. Le temps passe et l'alliance commence à souffrir. C'est-à-dire que ce peuple qui avait dit au départ « Nous ferons tout ce que Dieu a dit », en fait ne l'a pas fait. Il s'est trouvé que les peuples environnants ont exercé sur eux une influence assez forte et n'ayant pas suivi toutes les consignes qui leur avaient été données, les religions païennes qui environnaient le peuple hébreu se sont finalement peu à peu infiltrées dans le peuple. Et on se retrouve avec des passages dans les Écritures qui sont extrêmement saisissants, où Dieu dit « Mon peuple fait des choses pires que les païens qui ne me connaissent pas ». Et c'est assez surprenant de lire dans le texte ce que Israël faisait. Des sacrifices humains, tout simplement. Ce que les peuples païens faisaient, pratiquaient avec toutes sortes d'autres choses. Mais on va parler ici des abominations. C'est un mot qui est en fait très souvent dans le texte biblique, pour désigner tous ces écarts de fidélité par rapport à l'alliance que Dieu avait faite avec ce peuple. On va avoir dans les écrits des prophètes toutes sortes de mises en garde et de descriptions de cette infidélité du peuple d'Israël. Dans le deuxième livre des Chroniques, déjà on lit ceci, « Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'ils avaient sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre ce peuple devienne sans remède. Autrement dit, vous êtes allés trop loin. Le temps a passé, Dieu a été patient. Et quand vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que leur message est très simple. Leur message est ceci, voilà où vous en êtes. Revenez, revenez, revenez. Un appel à un retour, à la fidélité, à l'alliance du départ. Les prophètes vont avoir finalement un seul message. Revenez. Vous remarquez ici le vocabulaire « abomination sans remède ». Ce mot « abomination » va apparaître dans Matthieu 24 et va faire référence à une foule de passages qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Lorsqu'un Hébreu va entendre cela, il va avoir à l'esprit tous ces passages de l'Ancien Testament où Dieu parle d'abomination. Et il saura ce que ça veut dire. Nous allons le découvrir. Dieu avait un plan bien différent. Pour montrer quelle espèce de relation il voulait établir avec ce peuple, Dieu va parler en termes de mariage, de relation homme-femme. Et ainsi, on va avoir dans la Bible deux femmes, deux sortes de femmes. La femme fidèle. Et dans l'Ancien Testament, déjà, ce type de relation est indiqué par Dieu. C'est ainsi que Dieu conçoit la relation entre lui et les êtres humains. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. L'Ancien Testament n'est pas le livre où l'on parle du Dieu méchant qui cherche à aller tuer ceux qui ont le malheur de transgresser sa loi. C'est l'image que les hommes en ont développée avec le temps. Dieu a un objectif différent. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, Dieu se présente. L'Éternel est ton époux. Et cette image, nous allons la retrouver au travers de l'Ancien Testament jusqu'au fond du Nouveau Testament. L'Apocalypse se termine avec cette image-là. Ce sont les noces de l'agneau. Ce n'est pas une image du Nouveau Testament, c'est une image de l'Ancien Testament. Les noces de l'agneau avec la femme fidèle. Parce que, bien entendu, pour reprendre la même image, il y a bien sûr la femme infidèle. L'Éternel me dit, et il parle à Osée, « Va encore et aime une femme aimée d'un amant, une adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux. » Tout le livre d'Osée est basé sur ce thème-là, le thème de l'amour et de l'adultère. Et Dieu va demander à Osée une chose extraordinaire, une chose difficile à comprendre. Il va lui faire vivre en tant que prophète ce que Dieu vit dans la frustration qu'il a d'avoir une relation avec un peuple qui est infidèle de A à Z. Et il va demander à Osée, son prophète, d'aller se marier avec une prostituée. Cette prostituée va partir. Il va aller racheter lui-même sa femme, qui est une prostituée, sur le marchand d'esclaves. Tout ce livre d'Osée est chargé d'émotions énormes pour aider à faire comprendre à ce peuple ce que Dieu vit dans la frustration qu'il a dans la relation avec ce peuple. Ainsi, il y a la femme fidèle, et puis il y a la prostituée, la femme infidèle, dans le texte de l'Ancien Testament comme dans le texte du Nouveau. Ézéchiel va reprendre ce thème, et souvenez-vous, Ézéchiel se situe juste avant la destruction de Jérusalem. « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Mais tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. » Toujours dans le chapitre 16, « Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse. » Des appels de Dieu, comme s'il parlait à une femme qu'il a abandonnée, une femme infidèle, qui est infidèle constamment et qu'il va constamment rechercher en envoyant ses prophètes. Ainsi, les abominations dont parle Jésus dans Matthieu 24, faisant référence au livre de Daniel, se trouvent déjà largement décrites dans l'Ancien Testament. Maintenant, Ézéchiel, lui, va être témoin de quelque chose de particulier. Dans une vision qui est rapportée au chapitre 8, Dieu va le transporter dans le fameux temple dont nous avons parlé. et il va lui montrer ceci. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'elle commet ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter ?» Il y a là quelque chose d'assez fort. Dieu avait donné les instructions pour construire son temple, c'est-à-dire le lieu où il venait adorer, parce que c'était le lieu où Dieu s'était manifesté par sa présence. Dans ce temple, les hommes de son peuple instituent un culte du soleil. Mais pour pouvoir adorer le soleil dans ce temple, il faut qu'ils le vivent à l'envers. Parce que Dieu avait fait construire le temple avec la porte à l'Orient, c'est-à-dire à l'inverse de la plupart des temples païens, qui étaient orientés en fonction du soleil et du culte du soleil. Pour bien faire comprendre que le culte de Dieu est exactement l'inverse des cultes païens et du culte du soleil. Que fait son peuple ? Dans son temple, ils tournent le dos à Dieu et face au soleil, ils adorent le soleil levant. Dieu va montrer cette abomination à son prophète pour lui faire comprendre jusqu'où l'infidélité du peuple a amené ces gens. C'est un peu comme le sommet de l'affront qui est fait à Dieu. Il est dans son temple. Il s'est manifesté par la nuée. Et c'est le soleil qu'on va adorer, une créature de Dieu. Ainsi, ces abominations du peuple vont être constamment l'objet des rappels des prophètes. Jérémie, qui vit sensiblement à la même époque que Ézéchiel et que Daniel, rapporte les paroles de Dieu. « Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation ? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. » Ce n'est pas que les dirigeants sont complètement partis, c'est que ils trompent, ils mentent, et le peuple est content avec ça. En fait, ce qui est vrai à cette époque-là est encore vrai souvent aujourd'hui. Un peuple a les chefs qu'il mérite. Et c'est ce qui se passait déjà à ce temps-là. Ils faisaient toutes les perversions possibles et imaginables, mais le peuple était content de la façon dont les choses se faisaient, sauf quelques-uns, qui dans le chapitre d'Ézéchiel où on faisait référence tout à l'heure, sont ceux qui pleurent sur les abominations qui se font. Mais c'est un petit reste dans un coin. Ce sont des gens qui se cachent pour ne pas être vus de la majorité de ceux qui soutiennent la corruption générale. Voilà l'image à laquelle on arrive. Et voyez qu'il y a un long chemin entre ce peuple qui est au pied du mont Sinaï et qui arrive là dans cette époque des rois en pratiquant finalement la même chose, si ce n'est pire, que les peuples environnants. Qui fait des affronts directs à Dieu dans son temple. Alors évidemment, les choses sont annoncées comme devant se gâter. Ézéchiel rapporte aussi ces choses. « Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère sur toi, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. » Dieu appelle, Dieu appelle, Dieu appelle. Ça ne fait rien. Maintenant, il faut agir. C'est comme avec les enfants. Quand on dit à un enfant, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, puis qu'il le fait quand même, qu'est-ce que vous faites ? Vous lui dites encore, la prochaine fois, tu ne le feras pas, hein ? La prochaine fois, on active la circulation sanguine sur la partie postérieure. Ça aide à faire monter le sang au cerveau et ça permet d'avoir les idées un peu plus claires. C'est ce que nous faisons quand c'est nécessaire. Et Dieu, qui est notre Père, ne ferait pas la même chose ? Ainsi, Dieu annonce qu'il va exercer des jugements sur ce peuple. On a l'impression qu'il a épuisé ses moyens, d'appel, et comme rien ne répond, il faut maintenant éradiquer le mal. Et il annonce ce qui va se passer. Vous vous souvenez dans le prophète Amos, Dieu dit par ce prophète qu'il ne fait rien sans annoncer à ses serviteurs, les prophètes, ce qu'il va faire. Dieu ne prend pas l'homme par surprise. Dieu veut parler avec l'être humain. Dieu veut communiquer avec lui. Dieu veut lui dire quel est son plan. Il veut une communication comme il y a une communication dans le couple. Mais quand il n'y en a pas, alors Dieu agit. Ainsi, il annonce qu'il va se passer quelque chose de grave. C'est fini. Il va donc y avoir une séparation entre Dieu et le peuple. Une cassure qui se produit. Le prophète Ézéchiel reçoit de la part de Dieu une vision extrêmement impressionnante. Dans cette vision, Dieu annonce ce qui va se passer. Et il fait voir à son prophète non seulement ce qui sera visible par des yeux humains, mais il lui fait voir aussi de l'autre côté, comment Dieu va agir. Je n'ai pas pu couper ce texte, il est un peu plus long, parce qu'il nous donne exactement l'heure juste à cette heure-là de l'histoire d'Israël. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici, six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et s'adressant aux autres en sa présence, il dit, « Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez le vieillard, le jeune homme, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de mort les parvis. Sortez !» Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Impressionnant. Dieu est en train de dire, « Je vais frapper. » Mais avant, il va falloir marquer du sceau ceux qui ne sont pas dans ces abominations-là. Il y a ceux qui pleurent, qui gémissent sur les abominations que le peuple fait. Dieu n'est donc pas un Dieu aveugle qui va punir sans distinction un peuple entier, sans faire la distinction entre ceux qui marchent avec les abominations générales et ceux qui, dans leur cœur, ont pris une décision différente. Ceux-là vont être marqués et épargnés. On avait la même chose à la Pâque. Les maisons qui avaient été marquées du sang étaient elles aussi épargnées. Les maisons qui n'étaient pas marquées du sang ont subi aussi la dixième plaie. On a la même chose ici. Il y a donc toujours, lorsque Dieu intervient, un petit reste, un nombre que nous ne connaissons pas, de gens qui n'appartiennent pas à cette abomination générale, à cette apostasie globale, et que Dieu préserve et met de côté. C'est cette notion de reste que l'on retrouve tout au travers des Écritures. Vous remarquez maintenant que Dieu agit et que Dieu punit fort. Maintenant, une chose extrêmement saisissante se produit. Une coupure s'est produite. Une séparation, j'allais dire un divorce, dans le cadre de cette image de la relation que Dieu veut établir avec son peuple. Regardez ce qui suit dans le chapitre suivant. La gloire de l'Éternel, cette colonne de nuée qui s'était manifestée au début, se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. » Un peu plus loin, dans le même contexte, les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Sans qu'on s'en rende compte, il se passe ici quelque chose de dramatique. Cette manifestation de la présence de Dieu, qui était venue à l'inauguration de la tente dans le désert, qui était venue à l'inauguration du temple de Salomon, et qui restait là comme expression de la présence, de l'amour de Dieu, maintenant cette gloire de l'Éternel s'en va. Elle quitte le temple. Et quand on lit le texte, je n'ai pris ici que des extraits, vous pourriez le lire in extenso dans votre Bible, on a une impression très claire qui ressort lorsqu'on lit le texte d'une façon continue, c'est que Dieu se retire, mais n'a pas envie de partir. Il se retire, il s'élève et il va à la porte. Il reste à la porte. Comme si il avait le cœur brisé de quitter ce lieu et de quitter ce peuple. Et puis quand il s'en va du temple, traverse la vallée, et où va-t-il ? Elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Qu'est-ce que c'est que cette montagne qui est à l'orient de la ville ? Nous la connaissons. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville, que nous appelons aujourd'hui le Mont des Oliviers, qui est juste en face du temple. Lorsque vous avez une photo aujourd'hui de l'esplanade du temple, c'est du Mont des Oliviers qu'elle est prise. On a de là une vue extraordinaire sur Jérusalem. Et le temple est juste là, de l'autre côté de la vallée du Cédron. C'est comme si Dieu avait quitté à contre-cœur cet endroit. Et qu'il ne veuille pas s'en écarter quand même. Il va à la porte et puis il va juste un petit peu plus loin sur la montagne, à l'extérieur de la ville. Et elle reste là. Cette présence de Dieu, cette Shekinah, va rester là sur le mont des Oliviers. Mais elle a quitté la ville. Elle a quitté le temple. Dieu s'est retiré. À partir du moment où Dieu se retire, tout peut arriver. Et ce qui va arriver à partir du moment où Dieu se retire, c'est ce que Dieu avait annoncé, c'est-à-dire la destruction. Dieu se retire, le diable arrive. C'est une manière de s'exprimer, mais le malheur arrive. Et ainsi, parce que Dieu s'est retiré, la destruction aussi va se produire. Jérémie, contemporain aussi, Ézéchiel, Daniel, Jérémie sont trois contemporains de cette époque-là, va nous en parler. « Voici le destructeur s'avance, comme les nuées, ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, etc. » Le vocabulaire qui est employé ici est particulièrement intéressant. Nébuchadnezzar et son armée va venir et va détruire le temple, va détruire Jérusalem, va emmener captif le peuple, et c'est la déportation à Babylone. C'est ce qui va se passer en 536 avant Jésus. Cette déportation va se faire en trois étapes, en trois vagues différentes, mais le résultat c'est que le peuple est déporté, le pays est vidé, la ville est détruite et le temple n'existe plus. Le beau temple de Salomon est réduit en poussière. Terminé. Remarquez de quelle manière l'armée de Nébuchadnezzar est présentée ici. Un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Cette image de l'aigle, elle est dans Matthieu 24. Elle est à plusieurs endroits dans les Écritures. C'est une image que nous retrouverons dans nos conférences suivantes et vous verrez que cette image de l'aigle nous permet aussi d'aller dans différentes directions dans l'histoire, de retrouver les mêmes choses, les mêmes étapes, les mêmes erreurs, finalement les mêmes développements. Nébuchadnezzar est comparé à l'aigle. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes, ils nous ont dressé des embûches dans le désert. À plusieurs reprises, vous retrouvez ce vocabulaire. et on le retrouve même dans le livre du prophète Daniel, où il est dit, le premier est semblable à un lion, il est ici par question de Nebuchadnezzar. Et il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Ses cavaliers s'avancent avec orgueil, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie, dit le prophète Habakkuk, faisant référence à l'armée de Nebuchadnezzar. Intéressant de voir à quel point l'aigle est utilisé dans le vocabulaire comparatif par rapport à l'armée de Nebuchadnezzar. Nous le retrouvons d'ailleurs, cet aigle, à plusieurs reprises. Ainsi, des jugements vont tomber sur Jérusalem. Et vous remarquez ici la comparaison entre ce qui se passe à la destruction de Jérusalem numéro 1 du temps de Nebuchadnezzar et ce qui se passe à la destruction de Jérusalem numéro 2 en l'an 70 après Jésus. Jérémie nous dit « La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. » La famine, l'épée et la peste. Et lorsque Jésus parle de la destruction de Jérusalem, il dit « Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Vous retrouvez dans ce contexte où Jésus parle ici aussi trois actions punitives de Dieu, trois malheurs qui tombent sur Jérusalem à ce moment-là, comme ils étaient tombés aussi au moment de la première destruction de Jérusalem. Il y a donc un parallèle saisissant entre la première destruction de Jérusalem et puis la deuxième que Jésus annonce dans Matthieu 24. Même chose avec le même vocabulaire d'ailleurs. Par rapport à la première destruction, il est dit dans Jérémie, parlant de Nebuchadnezzar, « Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, afin d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. » Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Et Jésus dit ceci, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Autrement dit, quand on lit les passages bibliques, on se rend compte que les abominations pratiquées par ce peuple conduisent à la désolation. C'est-à-dire, l'infidélité conduit à la destruction. Et nous retrouvons ce schéma dans la première destruction du temple comme dans la deuxième. Les abominations conduisent à la désolation. Infidélité conduit à la destruction. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent assujettis afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, qu'il se reposa de tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Alors ça, c'est un passage curieux. Un passage curieux parce qu'il y a là plusieurs choses. D'abord, il nous est dit que la déportation va durer 70 ans. 70 ans, déjà, c'est quelque chose de remarquable, parce qu'on a là le chiffre 7. 70 ans, ça rappelle la grâce. 7, c'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre de la perfection. On va retrouver dans Daniel une prophétie qui est la prophétie des 70 semaines. 70 semaines, c'est 490 jours, c'est-à-dire 7 fois 7. Le sommet de la grâce que Dieu offre. Cette prophétie est en réalité, dans le livre du prophète Daniel, le moment où Dieu va donner sa deuxième chance en offrant sa grâce. Et pour un Hébreu, c'est clair, 7 fois 7, c'est le chiffre de la grâce, c'est le chiffre du jubilé. Parce qu'au jubilé, tous les 50 ans, toutes les dettes étaient remises. Et le Christ, lorsqu'il va introduire son ministère dans sa ville à Nazareth, va le présenter dans le terme du prophète Ésaïe qui parle de l'année de grâce du Seigneur, la guérison, les prisonniers relâchés. L'année de grâce, l'année du jubilé qui vient tous les 7 fois 7 ans, est une image du ministère que le Christ veut accomplir dans le monde, apporter la grâce de Dieu. Ainsi, cette déportation va être une déportation d'une durée de 70 ans. 70, c'est un chiffre de grâce entre les mains de Dieu. Mais il va expliquer pourquoi. Et dans ce texte dit, ils vont être en déportation jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Le sabbat, c'est tous les 7 jours. On apprend finalement que le peuple d'Israël, dans ses multiples abominations, en avait fait une en particulier, auquel on a fait allusion tout à l'heure, c'est qu'elle n'observait plus le 4e commandement. Et les hommes et le pays ont été frustrés de cette observation du repos. Repos pour les hommes, tous les 7 jours, repos pour la terre, tous les 7 ans, et jubilé, tous les 7 fois 7 ans. On a d'ailleurs dans l'histoire fort peu d'indications que ces choses aient été pratiquées sérieusement pendant longtemps. La déportation arrive comme résultat des abominations que le peuple a pratiquées, et Dieu dit, « Eh bien, vous allez partir pendant 70 ans pour compenser tous les sabbats qui n'ont pas été observés, soit pour les gens, soit pour la terre. » C'est dire à quel point, dans cette mesure que Dieu prend contre le peuple, l'observation des commandements et du 4e commandement joue un rôle très important. Dieu a fait remarquer à son peuple que cette déportation est le résultat d'un culte qui est passé du sabbat de l'Éternel au culte du soleil. Et c'est ce que Ézéchiel avait vu en vision dans le chapitre 8 où il le raconte de son livre, où l'observation des commandements de Dieu et du culte de Dieu avait été transformée en tournant le dos à Dieu et en adorant le soleil. Remarquez ce passage de l'un à l'autre. L'abandon du sabbat correspond au fait d'adopter le culte du soleil. C'est particulièrement significatif. Jérémie transmet les paroles de Dieu qui sont encore plus fortes. « Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront dans les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et de cette ville sera habitée à toujours. » Dieu est en train de dire, si vous aviez été fidèle dans l'observation des commandements de Dieu et en particulier du sabbat, cette ville n'aurait jamais eu besoin d'être détruite. C'est dire à quel point, dans l'action de Dieu vis-à-vis de ce peuple infidèle, les abominations en question, l'observation du 4e commandement a joué un rôle important. La non-observation du 4e commandement a joué un rôle prédominant. Si vous aviez observé le sabbat, cette ville aurait existé et aurait été habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Ne s'éteindra point. Est-ce que le feu brûle encore à Jérusalem? Non. Mais lorsque Dieu dit que le feu ne s'éteindra point, c'est que les conséquences en sont permanentes. Autrement dit, il y aura un moment, dit Dieu, où à cause du fait que vous n'observez pas ces commandements, et en particulier le 4e, la destruction de Jérusalem, elle ne sera pas temporaire, elle sera permanente. C'est la même expression qui est utilisée dans la Bible à propos de Sodome et Gomorre, où il est dit que c'est un feu qui ne s'éteindra point. Sodome et Gomorre ne brûlent plus depuis longtemps, mais elles n'ont jamais été reconstruites. C'est ce qui est arrivé au temple finalement. Il est arrivé un moment où ce temple n'a jamais été reconstruit. L'histoire se répète, et quand Dieu parle, je suis impressionné de voir que ça s'accomplit. Cependant, il y a eu une reconstruction. Nebuchadnezzar a détruit la ville, détruit le temple, 70 ans plus tard, sous le royaume des Perses, le peuple hébreu va avoir la permission de revenir à Jérusalem et de reconstruire. De reconstruire par étapes, de reconstruire le temple, de reconstruire la ville, de reconstruire les murs de Jérusalem, de remettre, de remonter le peuple dans son autonomie et de reconstruire Jérusalem. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Ce roi païen a été confronté par Daniel aux prophéties bibliques. Et dans les prophéties bibliques, dans le prophète Ésaïe, se trouve le nom de celui que Dieu va utiliser pour libérer son peuple. Et on peut imaginer à quel point ce roi a été impressionné de voir comment Dieu, dans les textes écrits 250 ans avant sa naissance, va appeler ce roi païen « mon Messie », ce libérateur pour son peuple. Et il le conçoit comme un appel de Dieu. Il va dire « Dieu m'a demandé, m'a commandé de bâtir sa maison à Jérusalem ». Il va donc donner au peuple le moyen de reconstruire le temple et la ville. Mais il se passe ici quelque chose. On a des textes extrêmement précis qui nous disent que lorsque le sanctuaire du désert a été inauguré, la manifestation de Dieu est venue sous forme de la nuée. Les mêmes textes étaient employés par rapport à l'inauguration du temple de Salomon, où la manifestation de Dieu s'est présentée aussi sous forme d'une nuée au moment de l'inauguration. Mais lorsque le deuxième temple a été construit, au moment de la restauration, nous n'avons aucun texte qui nous dit que la nuée s'est présentée. Par contre, on a des textes étranges qui parlent de cette époque, en particulier le texte du prophète Agée, dont j'ai pris ici la traduction d'Arbi qui est plus littérale que certaines autres. « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore une fois, ce sera dans peu de temps. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre sèche. J'ébranlerai toutes les nations, et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. » Et alors là, je ne comprends pas. Parce que il nous est dit dans le texte que les Hébreux, lorsqu'ils ont reconstruit le deuxième temple, se sont mis à pleurer. Parce que les personnes âgées qui avaient eu souvenance de ce qu'avait été le premier temple, quand ils ont vu le deuxième temple, ils l'ont trouvé minable à côté du temple de Salomon. Et ils ont pleuré à Jérusalem en voyant ce temple « minable » entre guillemets, en comparaison de ce qu'avait été le temple de Salomon. Et il nous est dit ici, Dieu dit, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Pourtant, ce temple, qui est admiré des Juifs comme un objet de gloire, n'est pas à comparer à la gloire du précédent en termes humains. Pourquoi donc, Dieu dit-il, la gloire de ce deuxième temple sera supérieure à la première? Ce n'est pas ce que le peuple entend, ce n'est pas ce que le peuple comprend et ce n'est surtout pas ce que l'on voit. Comment donc cette prophétie va-t-elle se réaliser? Comment Dieu va-t-il faire pour que la gloire du deuxième temple soit supérieure à la gloire de la première? Alors, il nous faut avancer et essayer de comprendre comment Dieu va réaliser cette prophétie dans le cadre du deuxième temple. Je vais là maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, un chapitre particulièrement chargé de signification, se trouve ce texte. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Les textes que j'ai mis ici sont intéressants parce que et le mot « habiter » et le mot « gloire » ont la même racine. Ici, c'est écrit en grec. On les transfère dans le contexte hébraïque. Ils ont la même racine. Et c'est exactement par ce terme-là aussi que l'on va désigner le sanctuaire. C'est effectivement dans la même optique que Dieu avait dit « Je viendrai habiter au milieu d'eux ». Et lorsque Jean présente ce texte, de qui parle-t-il ? dans le prologue de Jean et dans les versets qui suivent. Il commence en parlant de la parole. Il parle de la parole qui est la lumière et fait référence au texte de la Genèse. Et il introduit par cela la personne du Christ. Et il dit, voilà, cette parole a été faite chair en Jésus. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé, autrement dit, sa Shekina. Mais comment ça? Alors j'aimerais vous inviter à suivre avec moi une séquence dans la vie de Jésus. À la fin de sa vie, peu de temps avant sa crucifixion, l'évangile de Matthieu et de Luc vont nous rapporter une séquence d'événements qui est extrêmement significative. Je vous invite à suivre avec moi au travers des textes, presque de jour en jour, ce qui va se passer à Jérusalem avec Jésus peu de temps avant la croix. Ici, Luc rapporte ceci. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem se trouve très peu de temps avant la mort de Jésus. Et c'est extrêmement curieux parce qu'on a ici une population en liesse qui acclame le Christ comme son libérateur. Quelques jours plus tard, ils vont crier « Crucifie, crucifie !» Mais pour l'instant, Jésus rentre à Jérusalem, assis sur un ânon, la monture traditionnelle royale du roi d'Israël, raison pour laquelle il parle ici « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur !» Quelques heures plus tard, Jésus va dans le temple. Il nous est dit, il entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Jésus rentre dans le temple, il s'agit du parvis du temple, où s'étaient installés tous les marchands, de façon à pouvoir faire un grand business avec la vente des animaux pour les sacrifices et le change de l'argent en argent du temple. Un gros business très lucratif s'était installé là. Jésus arrive et chasse tout le monde dehors et leur dit « ma maison sera appelée une maison de prière, pas une maison de business. » Et il met tout le monde dehors. Alors vous imaginez bien, quand on empêche ces gens de faire leur business, faites la même chose aujourd'hui. Empêchez quelqu'un qui a trouvé le truc pour ramasser de l'argent à la pelle, empêchez-le de le faire, vous allez voir le problème que vous allez avoir. Et c'est ce que Jésus fait. Vous imaginez qu'il va monter contre lui la rage de tous ceux qui profitent de ce business-là. Et cette rage de Jésus qui vient, qui dit « ma maison », sera une maison de prière. Comme si Jésus était chez lui ici et qu'il en chasse tous ceux qui n'ont rien à y faire ou qui sont venus pour autre chose que ce pour quoi le temple est fait. Ma maison. En sortant de là, Jésus va présenter des paraboles. Il va même parler dans le temple. Il va présenter cette histoire qui est en fait aussi une parabole, mi-réalité. Le matin, En retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Le figuier, dans l'Ancien Testament, comme la vigne, va représenter le peuple d'Israël. Une image que l'on retrouve dans l'Ancien Testament pour désigner le peuple, qui est amené à porter du fruit. En sortant du temple, Jésus dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Les disciples d'ailleurs sont extrêmement étonnés de voir l'effet immédiat de cette malédiction portée sur un arbre. Et c'est la raison pour laquelle je parle là d'une parabole, parce que Jésus est en train là d'enseigner quelque chose. Le figuier, c'est Israël. Il dit « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Il va ensuite présenter une autre parabole, la parabole des vignerons que vous connaissez, où il met en scène un maître qui a une vigne et il remet la vigne aux soins d'un certain nombre de vignerons, et il envoie ses serviteurs pour recevoir le fruit de sa vigne. Les vignerons vont tuer les serviteurs les uns après les autres. Et puis le texte continue, « Mais quand les vignerons virent venir le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Le maître a envoyé ses serviteurs. Ils les ont tués. Il envoie le fils. Il le tue aussi. Ça ne vous rappelle pas l'histoire d'Israël où Dieu envoie ses prophètes les uns après les autres sans que le peuple écoute? Finalement, il envoie Jésus. Et que vont-ils faire avec Jésus? Le mettre à mort hors de la ville, hors de la vigne. Et Dieu dit, que pensez-vous que le maître va faire après ça? Que pensez-vous? Que va-t-il faire à ces vignerons qui ont passé au fil de l'épée et serviteurs et héritiers? Pensez-vous qu'ils vont eux aussi y passer? Jésus est ici en train de parler de son peuple, sa vigne. Et quand vous prenez le texte du prophète Ésaïe, on retrouve avec cette image de la vigne le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem. Maintenant, Jésus est dans le temple. Il dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison, vous sera laissée déserte. » Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les paroles de Jésus ici dans le temple sont extrêmement lourdes. Ce n'est plus ma maison, c'est votre maison et elle vous sera laissée déserte. Et il rajoute pour qu'ils comprennent « Vous ne me verrez plus ». Jésus quitte le temple. C'est la dernière fois qu'il y met les pieds. Jésus n'a plus mis les pieds dans le temple après ces paroles. Il a quitté le temple. Et où est-il allé? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, la dernière fois, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Écoutez, quand Jésus dit ça à ses disciples, eux aussi sont renversés. Parce que le temple, c'est l'orgueil national. C'était très beau, ce n'était pas le temple de Salomon, mais du mont des Oliviers, on avait une vue extraordinaire. Et ils font remarquer, tu as vu ce temple, il est quand même fantastique. Oui, dit Jésus. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y aura pas deux pierres l'une sur l'autre ici avant longtemps? Comment ça? Impossible! Pour eux, dans leur tête, s'il n'y a plus de temple, c'est que ça doit être la fin du monde. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est la question qui déclenche le discours de Jésus au chapitre 24 de Matthieu. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé? La Shekina est venue se présenter sur la tente dans le désert. Dieu a dit, « Je vais habiter au milieu d'eux. » La Shekina est venue sur le temple de Salomon. Elle est restée là, manifestant la présence de Dieu. À cause des abominations du peuple, Dieu a envoyé ses prophètes qui n'ont pas écouté. Dieu a finalement retiré sa présence du temple. Et c'est ce qu'on a vu dans Ézéchiel. Cette Shekina qui sort, qui vient sur la porte, et puis qui va sur le mont des Oliviers, la montagne à l'orient de la ville. Et parce que Dieu a quitté le temple va être détruit pendant 70 ans. On va reconstruire, mais il n'y a aucune Shekina qui va venir sur le deuxième temple. Pourtant, le prophète dit... La gloire de ce deuxième temple sera supérieure à la gloire de la première bâtisse. Comment? Par la venue du Christ. C'est le Christ lui-même qui va être la Shekhinah, la présence même de Dieu dans le temple. Mais à un moment donné, Jésus va quitter le temple pour la dernière fois, de la même manière que la Shekhinah avait quitté le temple pour la dernière fois avant le jugement de Dieu. Cette gloire du deuxième temple résidait dans la présence du Christ qui est venu, qui a guéri, qui a enseigné. Mais un jour, parce qu'on a voulu le chasser, parce qu'on a voulu se débarrasser de lui, il leur a dit « Votre maison va être laissée déserte ». Autrement dit, la Shekhinah, le Christ lui-même, la présence de Dieu parmi les hommes, va se retirer. De la même manière que cette Shekhinah était allée sur le mont des Oliviers, de la même manière Jésus, en sortant pour la dernière fois du temple de Jérusalem, va sur le mont des Oliviers. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va prononcer le discours sur le signe des temps et la fin du monde. Le discours rapporté dans Matthieu chapitre 24. Vous voyez maintenant le parallèle entre cette histoire du passé d'Israël et ce qui se passe dans les dernières heures avant la crucifixion de Jésus. Jésus a fait exactement la même chose que la Shekhinah du temps d'Ézéchiel. Regardez ce commentaire du siècle passé. Son inauguration n'avait été marquée d'aucune manifestation surnaturelle. Aucune nuée de gloire n'avait envahi le nouveau sanctuaire. Le feu du ciel n'était pas descendu sur l'autel pour consumer le sacrifice. La Shekhinah n'avait plus résidé entre les chérubins du lieu très saint. L'arche, le propitiatoire et les tables du témoignage avaient disparu. Et aucune voix céleste ne répondait plus aux sacrificateurs qui consultaient Dieu. Il y a donc une différence magistrale entre le temple de Salomon et l'autre qui a été reconstruit après la déportation. Ce qui honora le second temple, ce ne fut pas la nuée glorieuse de Jéhovah, mais la présence personnelle de celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'était Dieu manifesté en chair. C'est quand le Nazaréen avait enseigné et guéri dans ses parvis sacrés que le désir de toutes les nations était entré dans son temple. Ah, j'aime ce commentaire parce qu'il correspond exactement au texte biblique, qui nous montre la séquence des événements et qui fait le parallèle entre ce que Jésus a fait et ce qui est arrivé du temps d'Ézéchiel. En fait, la présence de Dieu, plus glorieuse encore que la première dans le deuxième temple, c'était la présence du Christ lui-même. Et c'est dans ce contexte-là que se situe le passage qui nous intéresse dans Matthieu chapitre 24. Vous voyez qu'il y a dans ce discours que Jésus prononce quelque chose qui trouve son origine très loin dans l'histoire d'Israël. Maintenant, ce que Jésus raconte dans ce discours est particulièrement saisissant, parce qu'en réalité, Jésus est en train de dire « Lorsque Jérusalem va être détruite définitivement cette fois, eh bien vous verrez en petit ce que sera la fin du monde, mais cette fois à l'échelle de la planète entière. » La chute de Jérusalem, les disciples vont la voir, certains d'entre eux. Les contemporains de Jésus vont la voir. Et nous en parlerons d'ailleurs parce que nous avons des textes de cette époque qui expliquent ce qui s'est passé, la destruction de Jérusalem. Saisissant. Je relisais encore pour préparer ces conférences des chapitres et des chapitres entiers des textes historiques de l'époque, des choses extraordinaires. Mais Jésus dit tout cela, c'est en miniature ce que sera la fin des temps en grand. Et quand je vois à quel point les paroles de Jésus se sont réalisées dans la chute de Jérusalem en l'an 70, la deuxième destruction, je ne peux que trembler en pensant que ces paroles-là vont se réaliser avec tout autant de fidélité lorsque Jésus va revenir et mettre fin à l'histoire de ce monde. Je ne vois pas pourquoi ces paroles se seraient accomplies dans le passé sans défaillir et que dans l'avenir, il n'en serait pas de même. En effet, dans l'Apocalypse, on se rend compte aussi que Dieu retient les vents et qu'à un moment particulier, Dieu se retire. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Tout d'un coup, Dieu qui retient les vents de la colère, les vents de la guerre, les vents de la misère dans ce monde, dit « C'en est fait, c'est fini ». Et il se retire. Je peux imaginer, en fonction de ce que nous lisons aussi dans les autres prophéties, l'Apocalypse, que les mêmes schémas vont se reproduire, que l'abomination va conduire à la désolation de la même manière. Et cette désolation, je la trouve dans l'Apocalypse. Je trouve dans l'Apocalypse un Dieu qui se retire du monde parce qu'il a été flanqué dehors par l'humanité. Ce que Jésus annonce dans Matthieu 24 est en réalité une prophétie avec deux pieds. Une application en 70, lorsque les Romains vont venir et détruire la ville de Jérusalem et le temple, définitivement le temple. Et la deuxième application, c'est que ces choses-là vont s'appliquer aussi à la fin des temps. Dans la conférence que nous aurons demain soir, nous verrons la structure de ce chapitre 24 de Matthieu, qui fait un parallèle et qui nous permet de voir ces différents signes, non seulement pour la première destruction, mais aussi pour la deuxième. Demain, j'aimerais voir avec vous un certain nombre de textes, de passages qui sont liés à cette destruction du temple et qui répondent aux prophéties directes de l'Ancien Testament à ce sujet-là, montrant à quel point, quand Dieu parle, ça arrive. Et je pense que ce que Jésus a donné comme indication dans ce chapitre doit servir au monde d'aujourd'hui, en particulier au monde chrétien, pour comprendre que lorsque Dieu appelle, il ne le fait jamais en vain. En réalité, cet appel que Jésus adresse, c'est le dernier. Mais cet appel doit être compris par notre génération qui s'approche de la fin comme étant un appel pour réagir avant que le Seigneur ne se retire. Et dans ce sens-là, je crois que le chapitre 24 de Matthieu a toute sa valeur pour nous aujourd'hui. Dans Luc, dans le même contexte de ces dernières heures que Jésus passait à Jérusalem, il rapporte ces paroles « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et en effet, Jérusalem n'a pas connu le temps où Jésus, le Fils de Dieu, était là parmi eux. Ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas voulu, et ils l'ont mis à mort. Et je me pose la question pour le temps d'aujourd'hui. Je crois que Dieu visite ce monde par l'action de son esprit, d'une façon forte et puissante. Et je me pose la question, est-ce que notre génération connaît le temps où elle a été visitée? Parce que nous avons dans l'Évangile quelque chose de saisissant. Cette Shekhina qui était sur le temple, nous la retrouvons dans le Nouveau Testament d'une façon tout à fait différente. Elle était là pour tout le peuple dans l'Ancien Testament. Elle était la présence de Dieu pour l'ensemble du peuple au-dessus du temple. Mais le Nouveau Testament nous dit, l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens nous dit, « Ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Et à la Pentecôte, Dieu s'est manifesté non pas d'une façon globale, mais sur la tête de chacun de ceux qui avaient accepté l'alliance avec le Christ. Par conséquent, cette manifestation de Dieu à la fin des temps ne sera pas une manifestation globale pour tout le monde, pour sauver tout le monde en bloc. Elle sera individualisée, comme elle l'a été à la Pentecôte. Alors je pense, aujourd'hui, Dieu se manifeste de la même manière. Il appelle les individus, les uns après les autres. Et je me pose la question pour notre génération, est-ce que nous savons individuellement le temps où nous avons été visités? Ce que je souhaite, c'est que, à l'inverse de ce qui s'est passé dans l'histoire, le jour où nous serons visités par l'Esprit de Dieu qui nous appelle, nous sachions répondre autrement que le peuple a répondu dans le passé. Nous aurons l'occasion de voir demain et la semaine prochaine la suite de cette histoire pour essayer de voir comment aujourd'hui nous pouvons entendre lorsque Dieu nous visite.